qui sont là. Là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, je savais pas dans quel texte j'allais prêcher. Non, j'arrive très préparé, moi, là, faites-vous en pas. Ça, tu sais, c'est du vieux papier. Ça, c'est écrit 1937. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, l'inspiration sur le coup. Non, on va lire les versets 14 à 27. En fait, je vais vous dire pourquoi je suis mêlé. Parce que là, en ce moment, je suis très content. Le Seigneur me permet d'avoir... Ben là, j'ai pris un retard sur Matthieu, mais de préparer une semaine à l'avance. Comme là, là cette semaine, là, j'ai pu travailler sur mon message de dimanche prochain. Fait que ça l'aide. Ça me... Parce que tu as tout le temps stress. Si je suis capable de garder ça... Parce que dans Burns, des fois, il y a une, deux, trois dimanches d'avance. Mais lui, c'est un... Lui, c'est une machine, là. Un macaque. Non, mais sérieux, j'en reviens pas, là, mais moi, en tout cas, ben, fait que c'est pour ça, fait que j'ai commencé à regarder, j'ai pas préparé mon message de la semaine prochaine, mais j'ai commencé à le regarder, fait que c'est pour ça que je pensais à chapitre 18, parce que c'était ça que j'ai regardé cette semaine, parce que lui, je l'avais déjà préparé. Donc c'est pour ça, fait que je suis pas si mêlé, finalement. Bon, je m'arrange pour me mêler un peu, là, hein?
C'est nous autres qui
l'est. Oui, là, c'est vous autres qui l'est, hein? Avez-vous compris? OK, on va lire à partir du verset 14. Allez, regardez bien, on voit comment Jésus est un scandale pour tous. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, ici on parle de Jésus et, des disciples. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quand ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le. Donne-le-leur pour moi et pour toi. » Alors, on considère Jésus un scandale pour tous. Verset 17, il parle ici aux disciples, mais on va voir comment ça dépasse juste les disciples. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Regardez verset 23, on l'a vu, mais à la fin du verset 23, après que Jésus a dit qu'elle allait mourir, qu'elle allait ressusciter le troisième jour, ils furent profondément attristés. Et on vient de lire verset 27, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. » Et ainsi de suite. Donc, on a ces éléments-là qui sont là, trois situations, trois paroles où est-ce que Jésus est en scandale. Je vais vous expliquer évidemment plus en détail pendant le message. Mais je veux juste en introduction faire un parallèle avec notre époque. On va plonger dans le texte, on va aller voir le sens premier de ce qu'on parle avec ce qu'on a lu. Mais je commence avec une application, avec l'époque actuelle. Parce que je crois que ce passage est bien d'actualité, parce qu'en ce moment, Jésus encore est un scandale pour tous. Pourquoi? Ben, je pense que, là, je vais vous donner en plus les trois points du message. Jésus est un scandale pour le monde. OK? On vit dans ce qu'on appelle la culture de... En fait, comment on appelle ça en français? Cancel culture. La culture de cancellation.
Censure.
La culture de censure. Tu peux pas dire ça, c'est pas correct, c'est pas... OK? Va vous dire que parler de Jésus, parler de, du fait, hier on parlait de ça, hein? Dire que juste Jésus, c'est juste lui qui sauve, c'est la seule vérité. Mm-hmm. Quel scandale dans notre monde. C'est un outrage. Puis en parlant de canceller, même, on s'est fait canceller Noël, canceller Pâques. Savez-vous que c'est drôle, mais je voyais à Mississauga, on parlait de région ici, Québec, ça s'en vient de plus en plus... multiculturel. Mississauga, c'est très, très multiculturel. Il y a des gens partout dans le monde. Et il y avait des gens qui faisaient toute leur salam aleik. Ils étaient tous collés un sur l'autre. Il y avait une foule. Il devait être à peu près... Je suis pas un expert pour les foules, là, mais à peu près 500 personnes. Toutes collées l'un sur l'autre, zéro marque, rien. Puis ils faisaient une des cinq prières. Pas de police pour les déranger, pas rien. C'est drôle que pourtant, on a des pasteurs qui vont en prison, on a des polices, des églises qui ont des problèmes avec la police et tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus est un scandale au monde. Et même parmi les chrétiens, on va en reparler tantôt, mais c'est ça, hein, dans le fond, même beaucoup ne comprennent pas ceux qui veulent garder Christ dans sa position légitime de chef de l'Église. C'est un scandale! C'est un scandale! Justement, parmi les disciples, Jésus même est un scandale en ce moment. C'est pas le gouvernement qui cause le plus grand scandale parmi les chrétiens. Parce que le point de division entre les frères et sœurs dans l'Église et entre les Églises, toute la polémique est où commence et termine l'autorité de Jésus-Christ sur son Église. C'est ça le point de litige. C'est par rapport à Jésus-Christ. Jésus est aussi un scandale pour la religion. Vous savez, il y a un intérêt pour Jésus dans le monde plus que vous le pensez. Quand on regarde des choses, on dit, ben, il parle de Jésus par-ci, puis par-là. Mais j'aimerais vous dire que la grande majorité, qui sont bien dans la confusion, ne parle pas du Jésus de la Bible. Il parle d'un Jésus qui s'imagine, parce que vous savez, bon, les musulmans croient en Jésus, mais c'est pas les seuls, les témoins de Jéhovah croient en Jésus, puis en général, bien des gens vont croire à un certain Jésus, et ce certain Jésus imaginaire, qui n'est pas selon la Bible, refait de plus en plus surface, parce que les gens, ah, il va revenir, puis tout ça. Moi, je pense que celui qui attend et qui appelle Jésus, en fait, c'est celui qui va se faire passer pour un Jésus, mais c'est l'Antéchrist. Mais c'est un scandale. Les religions, tout le monde est c'est la confusion. Parce qu'ils ne savent pas qui il est vraiment. Disons qu'un certain Jésus est en vogue en ce moment, mais ce n'est pas celui de la Bible. Maintenant, ces choses-là, c'est juste pour amener, comme je disais, un peu... La notion de scandale est toujours d'actualité, mais je veux vraiment qu'on s'arrête sur qu'est-ce qui arrivait à l'époque où est-ce que ces choses se passaient. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit que Jésus provoque trois scandales. Et je viens de les donner, mais on va le voir ici dans le texte. D'abord, Jésus provoque un scandale envers le monde. Et dans les versets 14 à 21, on voit ce scandale. Bon, ça parle avec les disciples, cet enfant qui était possédé d'un démon. Mais le verset clé de cette section, c'est le verset 17. Race incrédule et perverse. Et là, quand il prend cette expression-là, il ne parle pas seulement aux disciples. Oui, les disciples sont inclus, mais quand il parle, c'est l'idée de cette génération, de cette époque. Puis ça va même jusqu'à nous autres. C'est l'idée... La race humaine, si vous voulez, nous autres, tu sais, puis là, on dit, race, ça, c'est une des paroles dures de Jésus, comment je devrais comprendre ça? Je vais vous l'expliquer ce que ça veut dire. Ici, c'est un diagnostic divin sur notre génération, notre race humaine. Parce que oui, Jésus se réfère aux disciples, mais... En tant que représentant ou partie de leur génération, représentant et partie de la race humaine. Comprenez-vous? C'est ça ici l'idée. Puis là, je dis que c'est un scandale au monde, parce qu'on fait toute partie de cette gang-là qui peut s'identifier ici à ça. Pourquoi? Parce que il y a cette conformité au monde. C'est le monde qui pense comme ça par rapport à ce qui arrive là. OK? En ce sens, on peut même dire que Jésus s'adresse à nous autres parce qu'on est la continuité de la génération qui a été commencée là. Puis on est aux prises exactement avec le même problème spirituel, l'incrédulité. L'incrédulité, là, il y a l'autre mot que je vais voir après, mais quand il dit ici incrédulité, ça signifie bon, que les disciples puis leurs contemporains, même s'ils étaient témoins que le Fils de Dieu était là, qu'ils faisaient des miracles pour attester qu'il était le Fils de Dieu, qu'ils faisaient des discours qu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu, ils n'ont pas exercé la foi dans ce qu'ils ont entendu. Ils étaient lents à croire. Hein, n'est-ce pas quelque chose que Jésus leur a reproché? Et on peut aller à la génération d'avant aussi, parce que dans Hébreux, on apprend que la génération qui était dans le désert avait le même problème. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'ils ne trouvaient pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Le problème universel de l'incrédulité. C'est un scandale au monde. Jésus commande la foi, mais il est un scandale. Il dit, comment qu'on... De toute génération, tout le monde a un problème avec Jésus. Voyons, ça se peut pas. Il se frappe à l'incrédulité du cœur humain. Lui, le Fils de Dieu. Okay? C'est ça le scandale. Donc, on est tous dans le même bateau. Que les disciples, que leur génération, les générations précédentes et la génération actuelle. Pourquoi? Parce que nous avons la même intelligence spirituelle obscurcie. Pour eux, c'était par rapport à ce que Jésus faisait, je disais, les miracles, puis même la croix, là, on va voir dans les versets 22-23, il annonçait la croix, puis, OK? Pour eux autres, ça ne faisait pas de sens. Hein? On sait que Pierre, ça le troublait bien gros. Il comprenait que Jésus était le Fils de Dieu, mais que le Fils de Dieu meurt dans les mains d'hommes impies. D'ailleurs, à ce sujet-là, Jésus... C'est vraiment puissant quand il s'est adressé dans Luc 22, il s'est adressé à Pierre, puis il dit « Simon, Simon ». Quand il répète le nom de même, souvent c'est parce que il y a quelque chose de fort qui s'en vient. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Satan veut instiguer le doute. Semer le doute, nourrir le doute. C'est ça l'idée de criber comme le froment. Comme le froment était séparé, le bon grain de l'écaille qui n'est pas bonne, qui est achetée, ben Satan veut séparer dans nos cœurs la foi en Dieu, puis tout ce qu'on pourrait avoir qui se mélange à ça, puis qu'on soit partagé. Désir pour Dieu, désir pour le monde, confiance en Dieu, confiance en soi. Comprenez-vous? Satan veut cribler, veut garder ça séparé. Mais Jésus ici, il dit qu'il a prié. Et juste pour revenir avec ce qu'on a vu, pas la semaine passée, l'autre d'avant, parce que la semaine passée, c'était le repas du Seigneur. Mais on voit que c'est pas nouveau ce problème-là, parce que Jésus, dans le chapitre, juste au chapitre précédent, chapitre 16, verset 23, il dit « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » OK, la même idée de scandale. « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est-à-dire que l'incrédulité ici des disciples, puis qu'on voit ici avec Pierre dans le verset qu'on vient juste de lire, c'est d'avoir la pensée de l'homme, de voir les choses selon l'homme, selon le monde, selon la logique humaine. Et ça, c'est d'abord un scandale pour Dieu avant que ça en soit un pour nous autres. Tu sais, on dit, ah, Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'il ne peut pas faire des affaires de même. Dieu, ça le scandalise qu'on ne croit pas ce que lui peut faire. Comprenez-vous qu'on ne croit pas, qu'on ne pense pas comme lui, il dit que les choses, elles sont réellement. Écoutez à ce sujet-là, un passage bien éclairant. Vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 1. À partir du verset 20, ça dit « Où est le sage? Où est le scribe? » Un, c'est la gang des Grecs, l'autre, c'est la gang des Juifs. « Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Juifs, pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, C'est ça le scandale de Christ pour le monde. C'est cette incrédulité de face à ce qu'il est, à ce qu'il est venu faire. Et en dépit de ce que Jésus, ici, a fait, il a guéri et tout ça, il y avait toujours ce problème d'incrédulité. Et en passant, on va voir dans juste un instant comment Jésus leur parle de la croix. Ça les scandalisait. Mais c'est vous, Jésus n'a jamais parlé de cette chose horrible, là. Faut comprendre. Tu sais, nous, on parle de la croix, peut-être qu'on... Mais pour eux autres, voyons donc, là, le Messie, puis là, la honte d'être crucifié, d'être mis comme ça en public, comme un criminel, c'était... Je comprends que c'était vraiment dur à saisir tout ça, mais Jésus n'a jamais parlé de cette croix sans parler immédiatement dans le second souffle de la résurrection. Il va ressusciter le troisième jour. Il était attristé, pourquoi? Parce qu'il était collé sur le problème de la croix. Il n'aurait pas été attristé sinon. Donc c'était gros, là. C'était l'incrédulité. Ce scandale de la croix les a empêchés de croire à la promesse de la résurrection. Ils étaient scandalisés par un. Ça les empêchait à croire à l'autre. Probablement que, comme Marthe, vous savez, quand Jésus arrive devant Marthe et que Lazare est mort dans Jean 11, elle croyait, tu sais, quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie, bon, puis ton frère va ressusciter. » Probablement qu'elle croyait symboliquement, ben oui, il va ressusciter au dernier jour. Mais non, Jésus voulait dire là, maintenant. Puis Jésus aussi, peut-être que les disciples croyaient, ok, éventuellement, il va ressusciter un jour à la résurrection des justes. Non, non, c'était 3 jours plus tard. Puis encore là, Jésus aussi spécifiait, là. C'est pas dans 100 ans, c'est 3 jours après, il va ressusciter. Donc, c'était pas vague, c'était précis, c'était. Et là, je veux juste souligner avec ça, on a une tendance humaine, une tendance pécheresse, incrédule, dont il faut vraiment se méfier. Elle est là, elle rôde, elle veut toujours reprendre le dessus dans nos cœurs. Il faut s'en méfier comme étant l'ennemi numéro un de nos cœurs. Ça est l'orgueil. Et je crois qu'elle est même très présente en ce moment par rapport à la réalité de la suprématie, de l'autorité de Christ sur nos vies et sur son Église. Est-ce que je vois en ce moment que ce que Dieu fait, c'est bon, puis je l'accepte? Ça, c'est sa suprématie sur ma vie. Est-ce que le fait qu'on ait une église comme une église est une église, on l'accepte comme tel parce qu'on voit que c'est Christ qui est le chef de l'église et lui est le seul? Maintenant, l'expression perverse. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction en anglais. C'est encore, c'est-tu « on to word » C'est encore plus mêlant pour moi, parce que je ne connais pas trop. C'est quoi, c'est au verset, frère, 17? Race incrédule et perverse. Ah, perverse. Ah, ça dit perverse aussi. Non, c'est ça. C'est un autre place à dire. Mais l'idée, là, ici, vers le mot perverse, nous, on pense souvent à perversion sexuelle, les choses de même. L'idée, c'est pensée tordue. Pervers, vite, tordu. C'est un mot qui réfère à ce qui est tordu. Et l'idée, c'est que c'est hors de l'ordre établi par Dieu. Vous êtes incrédule, puis vous n'êtes pas pantoute dans l'ordre de Dieu. Vous êtes passé à côté de l'ordre divin. OK? Et ça, c'est bien important. Pourquoi? Parce que Dieu avait un ordre pour toute chose. Dieu avait tout établi avec un ordre. Mais cette génération-là, non seulement il était incrédule, mais ça les faisait sortir de cet ordre-là que Dieu avait. Et n'est-ce pas le problème qu'on a en ce moment? Regardez notre société comment, tu sais, si c'était vrai pour eux qu'ils étaient une génération incrédule et perverse, ou c'est-à-dire hors de l'ordre de Dieu, pensez-vous que c'est pas vrai en ce moment? Je veux dire, c'est à l'apogée. Je veux dire, chaque tiracoin de ce que Dieu a pu avoir fait, c'est tordu, c'est sorti complètement. La famille, les hommes, les femmes, les enfants, le gouvernement, tout ce que Dieu a fait, a institué, tout est attaqué puis viré de bord. Perverti. C'est ça le sens ici. En fait, le concept, on peut même l'associer à l'inverse de la repentance. Parce que la repentance, c'est revenir à Dieu, mais ça ici, le mot, c'est se détourner de Dieu. OK? Donc, l'idée, c'est l'incrédulité qui nous fait nous détourner de Dieu, le Dieu d'ordre, le Dieu qui a tout établi, se détourner de lui, c'est l'inverse de la repentance. Et c'est ce qui est le problème numéro un en ce moment, non seulement dans le monde se détourne de Dieu, mais malheureusement, on voit que l'Église de Dieu se détourne de Dieu. Pourquoi? Parce que le scandale du monde affecte l'Église de Dieu. On n'est pas immunisé, on est dans le monde comme n'étant pas du monde, mais les choses du monde nous affectent. D'où l'importance d'être dirigé par la parole et le Saint-Esprit et sous l'influence de personnes qui sont remplies, contrôlées par le Saint-Esprit pour rester dans la foi et le chemin étroit que Dieu trace devant nous. C'est ça la voie des saints qui nous ont précédés et celle qu'on veut emprunter. Ça nous amène au deuxième scandale. Non seulement Jésus était un scandale pour le monde, mais il était un scandale pour les disciples. On l'a lu, où est-ce qu'il y a, j'y ai même référé, il a dit que le Fils de l'homme allait être livré entre les mains des hommes. Ils vont le faire mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Il était scandalisé à ses paroles. Et j'ai effleuré un peu dans le point précédent, mais là, je veux considérer ces versets-là à la lumière de ce qui précède. Dans les versets 20 à 21, OK? Jésus a dit, à cause de... Ils sont allés le voir, il dit, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Il dit, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Je veux développer ça un petit peu. Je crois que la clé ici pour recevoir, croire, accepter les vérités que Jésus voulait enseigner, c'était oui par la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et de passer du temps dans la présence de Dieu, la prière et le jeûne. Les vérités fondamentales ici que Jésus leur a révélées à plusieurs reprises. Et c'est spirituellement qu'ils étaient discernés. Et Jésus leur parle au verset 20 de la cause de leur échec, c'était leur incrédulité. Pourquoi ça n'a pas marché? À cause de l'incrédulité. Puis là, il parle de la foi, gros, comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que verset 21 parle de la... Excusez, c'est ça. Verset 20, c'est la cause de leur échec, l'incrédulité. Verset 21, c'est la cause de leur incrédulité. Ils ne se sont pas saturés de la pensée, de la volonté et des motivations, des émotions de Dieu. Ils n'étaient pas centrés sur lui. C'est ça que la prière et le jeûne font. Ça nous recentre sur Dieu. Pourquoi ils étaient incrédules? Ils ne se sont pas assis aux pieds du maître comme Marie l'a fait. Ils ne se sont pas nourris des paroles du maître comme Marie l'a fait. Ils étaient centrés sur eux, sur leur pensée. Ils étaient pris là-dedans. Pour ceux qui étaient pris dans ce piège d'incrédulité, ils pensaient humainement parce qu'ils étaient centrés sur l'homme. C'est ça l'idée du jeûne. Vous savez, la prière et le jeûne, c'est pas une formule magique. « Ah, si je jeûne, j'ai comme un bonus dans ma prière, ça va plus marcher. » Il y a une conception de ça, du jeûne, ça n'a pas rapport. Parce que ça peut être juste un rituel vide, puis ça veut dire, on a juste faim, puis on est impatient, puis parce qu'on en parle, je vais vous référer un passage, là, mais... Tant qu'il y en a, ça est arrivé, ils ont jeûné, puis ils étaient pires en jeûnant que pas jeûnant. Si j'en fais rire, c'est peut-être parce que je touche une corde sensible. Pas la fête d'une gang en spécial. Pour moi, ils ont vécu quelque chose que j'ai hâte d'entendre leur histoire. Mais bon, c'est pas une formule magique, mais c'est l'expression de la foi qui croit que Dieu est et qu'il délivre ceux qui se confient en lui. La foi, c'est-à-dire une foi qui dépend de Dieu. C'est ça l'idée du jeûne. C'est ça qu'un jeûne exprime. Dieu, j'ai complètement besoin de toi, je suis rien sans toi. C'est le fruit d'une disposition de cœur qui dépend de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas imposer un jeûne. On peut suggérer un jeûne, on peut se sentir dirigé, mettons, comme église, comme famille, dans un temps de jeûne. Mais il faut que ce soit Dieu qui nous dirige par son esprit là-dedans. Pourquoi? Parce que ça s'exprime spontanément comme une manifestation de la foi. La foi va prendre ce côté-là, ce temps de côté, dans le jeûne et la prière, pour chercher Dieu. Écoutez, à ce sujet-là, je pense que le passage le plus complet sur la question, Ésaïe 58, probablement vous connaissez, je vais juste vous lire quelques versets, le verset 3 et 4 d'abord. Ici, Ésaïe, donc Dieu qui parle à travers son prophète à son peuple. Que nous sert de jeûner? Excusez, là, ça commence avec le peuple qui parle. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? OK, donc ça, c'était le peuple de Dieu qui reprochait à Dieu. On jeûne, on se donne toute cette misère-là, puis ça sert. Autrement dit, la formule magique, elle ne marche pas. C'est ça qu'il dit. OK? De mortifier notre âme si tu n'as point garde. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Le repas, je n'étais pas avec Dieu, c'était avec eux. Et on voit qu'est-ce qui arrivait avec Ésaïe ici. C'était une coutume, une tradition de faire ce jeûne. C'était des jeûnes réguliers. Puis bon, il y avait un calendrier pour ça. Mais ici, on a lu, ils se livraient à leur penchant. Verset 4, ils se disputaient. Ça démontre que ce n'était pas l'expression de la foi, au contraire. C'était religieux, c'était vide. C'était une expression d'orgueil et d'incrédulité. C'est pour ça qu'ils s'en prenaient à Dieu. OK? Mais Jésus-Christ, il était un scandale ici aux disciples. Parce qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde qu'eux autres. Il n'avait pas choisi la bonne part. Il ne s'était pas arrêté comme ça, avec Dieu, dans sa présence, dans la prière et le jeûne. C'est pour ça qu'il était en scandale quand il parlait de ça. Il ne s'était pas arrêté là-dessus. Je pense que celle qui l'avait compris, c'était Marie. Parce qu'elle l'a montré en oignant. Elle était saisie par la croix, puis elle voyait ça. Elle était pas scandalisée. Les uns étaient scandalisés. Elle était émerveillée. Un contraste entre les deux, là. C'est assez frappant. Et je pense que la différence, c'est ça. Elle s'est arrêtée au pied du maître. Elle a pris ce temps. Bon, prière et jeûne, comprenez-vous? Elle s'est arrêtée avec son Dieu. Elle était en communion avec lui. Mais les disciples ici n'étaient pas sur la même longueur d'onde parce qu'ils n'étaient pas en communion avec lui. Ils n'étaient pas animés du même esprit, si vous voulez. Il n'y avait pas cet esprit qu'on voit dans le reste d'Ésaïe 58. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Verset 5. Un jour auquel... où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Si on est honnête, quand on trouve un problème avec Dieu et ses voies, c'est comme au début, là, que nous sert de jeûner, mortifier nos âmes, pourquoi je me donne toute cette peine-là? Quand on a cette attitude-là, parce qu'on n'accepte pas, ou même pire, qu'on rejette les voies de Dieu. On est incrédule, on est orgueilleux, on n'est pas en train de s'humilier comme on l'a vu dans les versets que je viens juste de lire. Ça, c'est au niveau individuel. J'aimerais amener quelque chose par rapport à nous comme Église. Vous savez, ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4, Paul exhorte, là, bon, lui, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur est adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Puis au verset 16 du même chapitre, ça nous dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Qu'est-ce que on peut voir avec ça? Ça, c'est l'esprit qui anime une église où est-ce que Dieu fait des choses extraordinaires. Individuellement, mais comme église, quand on est comme ça, là, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, OK? Puis qu'on se supporte les uns les autres avec amour. Puis que comme ça, le corps, tout bien coordonné, il y a un solide assemblage. C'est ça qui doit nous animer. C'est pour ça qu'on se rassemble. On ne se rassemble pas pour être pire comme les Corinthiens, mais pour être mieux. Mettons ça en contraste, vous allez peut-être comprendre avec le contraste. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jésus, des fois, est un scandale aux disciples parce qu'on n'est pas en communion avec lui et les gens avec les autres. On peut jouer à l'église, mais si on amène ça à l'église, même si ça ne paraît pas, même si on met le beau sourire en plastique, quand on amène un zèle amer, un esprit de dispute dans notre cœur, c'est comme si ça arrive avec une grosse pancarte. « Bonjour, je viens, je suis le trouble-fête, je suis en train de briser l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est vrai, c'est spirituel, c'est invisible, mais c'est tout autant réel. Parce qu'on ne vient pas ici avec un club social. Pour... Tu sais, on prie, puis on invoque Dieu. Dieu voit tout ça, lui-là. Là. Si on a ça dans nos cœurs, il y a quelque chose de profond là-dedans. Toute l'idée d'une église locale comme la nôtre, là, l'idée, là, c'est qu'on veille sur les autres, les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On n'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais on s'exhorte réciproquement autant qu'on voit s'approcher le jour. On se rassemble pour devenir meilleur. On se rassemble pour s'édifier. On se rassemble pour, justement, pour pas être en scandale. Okay? Jésus est en scandale lorsqu'on a la pensée de l'homme et tout ça, mais quand on se rassemble et qu'on est centré sur Dieu et tout ça, c'est l'inverse qui se passe. C'est pas un scandale, c'est une gloire, c'est une joie, puis on se réjouit dans le Seigneur, on s'excite les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis, lorsque Jésus, comme ça, arrive au point, si dans une église, il est en scandale aux disciples, c'est parce qu'il est déplacé du centre, là où il devrait être. Lorsqu'il est mis en périphérie, comme un accessoire, il va être un scandale. Puis je pense que c'est ce qu'on voit. Jésus a été traité tellement comme un accessoire, comme périphérique dans nos églises. Là, il va prendre la place légitime qu'il y a, bien, pour beaucoup, il est en scandale. C'est ça le scandale qu'on vit en ce moment. Je vous dis, c'est tout par rapport à Jésus-Christ. Nous, on fait ça par rapport à l'homme, puis eux autres, ils pensent demain. Non, c'est qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ? N'est-ce pas ce qui fait la différence pour l'éternité entre quelqu'un qui est sauvé et puis pas sauvé? Entre les disciples, nous autres, ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est le centre? Est-ce qu'il est l'autorité? Est-ce qu'il est notre tout en tous? Ça m'amène au troisième scandale. Non seulement un scandale pour le monde, les disciples, mais pour la religion. Et ça, on a ça dans le dernier passage, à partir du verset 24, où est-ce qu'il y a ces deux drachmes qui étaient perçus. Puis mon Pierre qui parle trop vite. « Oh oui! » T'sais, il va-tu donner? Oui, oui. Il a parlé trop vite, Pierre, parce qu'il n'était pas supposé le donner. On va regarder un peu l'histoire. Ça, c'était un impôt ou une taxe, si vous voulez, qui était perçue pour l'entretien du temple. Okay? Ça avait été décrété dans Exode 30, puis ça avait été réitéré dans 2 Chroniques 24. Okay? C'est une taxe pour l'entretien du temple. Donc, c'est une taxe religieuse. C'était le peuple de Dieu qui taxait le peuple de Dieu. Okay? Ça faisait partie des dîmes et des offrandes, là, mais bon, OK. Mais c'était plus une forme de taxe. Donc, dans toute la nation juive, les gens y étaient soumis, OK? Mais pas Jésus-Christ, parce qu'étant le Fils de Dieu, le Dieu du temple, il en était exempté, c'est tout ça le point. Il dit, ah les rois, est-ce que vous avez lu, c'est ça l'idée. Étant le Fils du Dieu du temple, il n'avait pas à payer, il était exempté. C'est les étrangers. Les autres étaient des étrangers dans la maison de Dieu, mais lui, c'est la maison de son père. C'est sa maison, il le dit, hein? La maison de mon père, le temple. Et donc, tout comme les rois ne soumettaient pas leur propre fils à l'impôt, et donc, sur le même principe, Jésus n'était pas tenu de payer cet impôt, mais pour éviter d'être en scandale à la religion. Il a dit, mais pour ne pas être en scandale, il a procédé à ce paiement un peu spécial, je veux dire, par un poisson, là, tu sais, je veux dire... Ça montre comment Dieu peut s'occuper de tout. Là. Dieu a pourvu à travers un poisson. Dieu peut faire des choses spéciales avec des poissons. On avait avec Jonas tantôt, là, mais aussi il peut pourvoir. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Est-ce qu'il s'est compromis? Est-ce qu'il se sentait pris dans un coin parce que ah, là, Pierre l'avait échappé et tout ça? Non, je crois qu'il ne voulait pas être en scandale à la religion. Vous savez que Paul, plus tard, dans 1 Corinthiens, il dit que, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Puis là, il procède pour expliquer avec le juif, il était avec le juif, ok. puis je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Je crois que c'est ce qui animait le motif de Jésus ici. À cause de l'Évangile, pour la plus grande cause supérieure, pour ne pas être en scandale à ces gens, il a décidé de faire ça. Pas parce qu'il avait à le faire, mais pour être tout à tout, pour gagner le plus grand nombre. Puis nous autres, bon, on suit ce principe-là aussi. Bon, j'ai donné l'exemple de Paul. Puis moi, par exemple, dans le ministère de prison, je ne vais pas parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne pars pas sur le même pied. Je pars avec un gars qui a zéro connaissance. Si je pars avec quelqu'un qui a une certaine connaissance chrétienne ou avec un musulman. Je veux dire, c'est le même Évangile, mais je ne partirai pas exactement au même endroit. Parce que je sais qu'il y en a un qui n'a pas grande notion de Jésus-Christ pantoute. L'autre, il y en a, mais il peut être tout confus. Puis l'autre, il pense qu'il croit à Jésus, mais c'est pas le Jésus de la Bible. Fait que voyez-vous, c'est le même Évangile, mais on part d'un point différent. Puis, ça s'applique même, ce principe-là, à la réponse qu'on est appelé à offrir à notre tendance religieuse. Hein? Rappelez-vous, on a parlé de légaliste, laxiste, hybride. Okay? Que Dieu nous a beaucoup révélé en 2020-2021 pour nous faire voir où était notre confiance, qui était l'objet de notre foi. Autrement dit, on peut être religieux. Puis on peut trouver notre confort là-dedans, notre confiance là-dedans. Et Dieu veut dénoncer ça. Dieu veut dénuder ça. Dire, il n'y a rien qui doit être l'objet de notre confiance autre que Jésus-Christ. Pas ce que je fais, pas la gang avec qui je suis ou que je suis pas, mais Jésus-Christ et lui seul. C'est pour ça que je pense qu'il y a un sens très réel et palpable par lequel Jésus-Christ s'est montré en 2020-2021 comme un scandale à la religion, notre religion chrétienne, nous autres, là, parce qu'il a révélé la réalité de nos vies, de nos églises. Il l'a révélé au grand jour. Savez-vous que c'est de moins en moins possible de trouver refuge, de trouver notre confiance dans autre chose que dans Jésus-Christ? Avant, c'était plus facile. On peut dire, oh, je vais à l'église, ça. Puis, c'est hier, je pense que c'est Simon qui disait avant, on peut dire, ah, oh, j'aime Jésus, puis ça, mais là, ouais, ok, t'es-tu prêt à payer le prix? Je me rappelle plus comment tu avais formulé ça, mais c'est ça l'idée. Avant, c'était plus facile de se faire des accroire. Mais là, c'est pas mal plus dur. Savez-vous que le message, vous regarderez les prophètes, là, Ésaïe, Jérémie, Amos, un message retentissant qui revenait chez les prophètes. C'était de briser la fausse confiance, la confiance mal placée que les gens avaient. Par exemple, dans Jérémie, il disait « Le temple, le temple, le temple! » En voulant dire « Hey, Dieu a fait résider son nom ici, c'est le temple de Dieu, personne ne peut nous toucher, les Babyloniens nous feront pas mal. » C'est une fausse confiance, parce que Jérémie leur dit « Non, ça va arriver. » Puis c'est arrivé. Savez-vous que c'est une tendance de la nature humaine qui est encore très actuelle et présente? « Ah, moi je vais à l'église, moi je vais à la bonne sorte d'église, j'ai la bonne doctrine, la bonne ci, puis la bonne ça, puis j'ai ma confiance là-dedans, puis je peux passer à côté de Jésus-Christ, la personne, l'objet de ma foi. » Et souvent, c'est des pièges d'orgueil et d'incrédulité, que ce soit n'importe quelle autre chose qui est l'objet de ma confiance. Comme je viens de le dire, on pouvait se faire croire avant que Dieu était le plus important dans nos vies, la plus grande de nos priorités, puis qu'on était un bon chrétien. Mais puisque le prix de notre foi ou les conséquences de notre foi, de notre fidélité est de plus en plus élevé, on est inévitablement confronté au choix de suivre nos peurs, d'être dirigé par elles, ou de suivre par la foi, d'être dirigé, centré sur Jésus-Christ. Là, la réalité sort. Les apparences tombent. Puis là, on voit où vraiment notre confiance. C'est comme ça que Dieu a tué dans l'œuf notre religiosité en 2020-2021. Jésus a été un scandale à notre religion. Puis ça dépense toute dénomination. On ferait le tour, là. N'importe quelle église que vous êtes, on a tous ce côté. C'est humain. C'est pas dénominationnel, c'est humain. Et Dieu, dans sa grande bonté, a brisé ça si on le laisse faire. Puis malheureusement, ceux en ce moment qui sont pognés dans le rut, they're stuck in the rut, sont pognés dans le caniveau, dans le clos, c'est parce qu'ils ne laissent pas Dieu faire. Pas parce que Dieu ne veut pas le faire, c'est parce qu'ils ne laissent pas faire. Ils persistent dans leur incrédulité. Il faut prier pour eux, il ne faut pas. Hier, ça a sorti. On ne veut pas être condescendant et regarder les autres de haut. Mais je veux dire, il n'y a pas d'autre façon. Le Dieu est en train de faire quelque chose. C'est soit qu'on on se soumet ou soit que ça nous détruit. On est vraiment face à ça maintenant. Puis, si on refuse de s'humilier, si on refuse d'ajouter foi à ce que Dieu fait, à cette œuvre de grâce, ben, c'est la chute. Je pense que c'est ça le grand scandale COVID. On dit, oh, le COVID, il y en a qui sont vaccins, anti-vaccins, puis il y en a qui sont aussi. Non, le grand scandale COVID, c'est Jésus-Christ. C'est, parmi les chrétiens, là, c'est Jésus-Christ. C'est, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'il veut dire pour notre Église, Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire de croire en Jésus-Christ? C'est ça qui a causé un scandale. Est-ce que j'ai tellement amadoué toute la question de la vie chrétienne, puis ça, que je suis capable de dire que Jésus-Christ, l'Église en ligne, puis tout ça, c'est tout parfait, c'est là qu'il y a le scandale. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la foi en Jésus-Christ, puis que je le suis? Puis que je suis prêt à le suivre? C'est ça le scandale. C'est le scandale à la religion. C'est facile de garder une religion. Puis quand que les gens disent qu'il n'y a pas de persécution, c'est faux. Parce que si on se conforme et on fait tout ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de persécution, ça a toujours été de même. L'Église de l'État n'a jamais été persécutée. Mais regardez ceux qui osent sortir le petit orteil des rangs, pac, ils se font frapper tout de suite. C'est vrai! Ou sinon, comme nous autres, je veux dire, justement, on garde ça low profile. Parce que Jésus est un scandale pour la religion. Puis tant mieux, parce que il n'y a rien de bon dans la religion, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. C'est de Christ et sa vie, puis c'est ça que Dieu nous donne. C'est pour ça que c'est tellement beau puis précieux ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il nous défait de ces choses, de ces chaînes qui nous gardent captifs. Fait que je termine avec cette pensée après-midi. Pour nous ramener au fait que ce qui est le plus important, le plus déterminant, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas les apparences, la religion, ce qu'on peut mesurer en quantité et tout ça. C'est ce qu'on voit pas. N'est-ce pas ce que 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pour ça qu'on vient ici, puis les gens vont dire, ils sont fous, pourquoi vous prenez le risque d'avoir des amendes et tout ça? Parce qu'on regarde à ce qui est invisible. Amen. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, on est fous pour le monde, on l'a vu tantôt, folie pour... scandale pour les uns, folie pour l'autre. Scandale pour les juifs, folie pour... Oui, c'est ça. Parce qu'on regarde à celui qui rémunère, mais qu'on ne voit pas. Mais je veux terminer avec ça. Verset 100, ça dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il y a un courage à regarder à Dieu. On reprend courage lorsque... Tu sais, on peut être scandalisé, puis être découragé, puis dire, ah, mon ami, ça ne marche pas, t'as-tu vu? Puis tous les scandales qu'on a vus là, les scandales du monde, les scandales pour les disciples, les scandales pour la religion... Mais Jésus est la fin de tous ces scandales-là. Pour ceux qui se confiaient en lui, qui marchaient avec lui, qui le suivaient, puis bon, ils ont eu, mettons, un couple of bumps in the road, là, ils ont... Mais finalement, c'est le cas, ils ont suivi Jésus, puis ils ont eu une paix qui surpasse toute intelligence, une joie. Ils ont... Les disciples de Jésus, tu sais, on parle de Pierre, là, il y a eu des accidents de parcours. Ouais, mais savez-vous quoi? Il s'était accroché à ce qu'il connaissait Dieu, puis Dieu l'a fait passer au travail. Puis il est arrivé des belles choses dans sa vie. Fait que le scandale, c'est pas... la norme de la vie chrétienne. On peut être scandalisé par des choses, mais Christ est la fin de ces scandales-là. Lui-même qui les provoque, il en est la fin. On n'a pas à être provoqué comme le monde est provoqué à cause de l'incrédulité. On a juste à avoir la foi. On n'a pas à être scandalisé comme les disciples ont été scandalisés avec des choses qu'ils ne comprenaient pas avec Jésus et tout ça. Parce que même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Si Dieu le dit, on y fait confiance, même si on ne comprend pas tout. Puis on n'a pas été scandalisé par la religion, parce que de toute façon, la religion, on n'en a pas besoin. Tant mieux si Dieu nous en dépouille. On n'a pas été scandalisé, on doit s'en réjouir quand Dieu nous dépouille de ces choses. Amen. Merci Seigneur qu'on a pu te considérer, toi, marchant sur terre, plein de grâce et de vérité. Ah, tu as dit une parole dure au verset 17. À tes disciples, à la génération des disciples et même à la nôtre. Mais c'est une parole de vérité. Et Seigneur, on ne veut pas s'en scandaliser. On veut s'humilier en disant, t'as raison, Seigneur. On est une race incrédule et perverse. On est une race qui se détourne de Dieu. Ah, mais Seigneur, c'est pas la fin de l'histoire. Tu es un Dieu plein de grâce, de vérité. Et tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Et Seigneur, au lieu de se détourner de toi, on vient à toi maintenant. Te remerciant pour la croix, te remerciant que tu es vivant, que tu es plein de grâce, que tu fais une œuvre de restauration. Merci pour ton amour qui nous unit. Merci pour ton œuvre d'amour au milieu de nous autres. Seigneur, on te loue, on bénit ton grand nom pour ta bonté. On te prie que tu continues. On te prie pour nos frères et sœurs qui sont pris dans des pièges destructeurs. Je suis attristé de voir des églises qui se meurent, des chrétiens dans les églises qui étouffent. Seigneur, continue à briser, brise toutes ces choses. Oui, c'est des scandales, mais Seigneur, révèle-toi et brise toute notre hommerie, Seigneur, qui est au milieu de nous autres. Et si on est là, c'est parce qu'on a reçu de toi. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? On n'est pas meilleur que personne. Mais Seigneur, nos cœurs sont brisés pour tous les scandales qu'il peut y avoir et qui font tellement de dommages. Seigneur, on ne veut pas être parti de ces scandales, au contraire. Seigneur, on veut se confier en toi et voir ta grâce qui surabonde, ta grâce qui est plus grande que l'incrédulité, que l'orgueil. Donc, Seigneur, on vient à toi, on te demande de continuer cette œuvre. Merci encore pour ce que tu fais dans cette église, au-delà, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Vraiment, c'est ce qu'on a vu. Depuis un an et demi, comment tu nous montres que tu es fidèle. Merci pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier, vous avez l'occasion de le faire maintenant comme le Seigneur vous dirige.